Bonjour à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcourseàpied.com. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Cécile Fontaine. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Anne-Cécile Fontaine, tu es double championne du monde et d'Europe des 24 heures en 2009 et 2010. Tu as également un record de 243,644 records de France de 24 heures. Donc tu as des performances assez impressionnantes et vraiment incroyables vues de l'extérieur. Donc je vais te laisser te présenter pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui dans la course à pied. Salut Anne-Cécile.
Ben bonjour Maxence, bonjour à tous. Donc Anne-Cécile Fontaine, j'ai 40 ans, je suis mariée, mère de trois enfants et je travaille en tant que masseur-kinésithérapeute, donc dans un centre de rééducation à temps complet. Voilà. Au niveau de la course à pied, mes débuts en fait c'était surtout pour courir avec mon mari en fait. Pour partager quelque chose, comme je l'ai toujours dit. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis aperçue, et puis de par les résultats obtenus en course, que j'avais des capacités. Et donc, ça motive pour continuer comment dire, une activité physique. Parce qu'à la base, moi, j'étais surtout passionnée d'équitation, notamment. Après, j'ai toujours aimé bouger, hein. Donc j'ai participé assez rapidement aux 100 km de Millau parce que mon mari était passionné par cette course. Donc je crois un an après avoir commencé la course à pied. Et pas du tout avec l'entraînement que j'ai maintenant. On y allait 3 à 4 fois par semaine et encore. Et là j'ai quand même réussi en 11h17 je crois, sans trop de souffrance. Donc on a continué un peu dans cette lancée à tourner beaucoup sur les courses de la région et puis après quelques 100 km. Bien
D'accord.
sûr, il y a eu les arrêts pour les enfants et beaucoup de courses sur la région. Voilà.
D'accord.
Et un jour, mon mari a décidé de faire 24 heures. Donc moi, je l'ai pas fait. Je l'ai accompagné. J'ai un petit peu soutenu, pas toute la durée. Et au début, ça ne me donnait pas du tout envie, en fait. Voilà, c'était bien de vouloir savoir ce que l'on valait sur 24 heures, mais ça m'attirait pas plus que ça. Je trouvais qu'on souffrait beaucoup. Bon, c'était pas mon truc. Et puis un jour, il a participé à Aulnat et là, il m'a dit, tu devrais y aller. Et donc, je suis allée avec lui et donc, j'ai fait mon premier 24 heures, je crois, mais il est pas loin. Il me dira, je crois, dans les 185 km, 187 km, en relativement bonne forme quand même à l'arrivée. Et avec une préparation relativement légère, hein, tout somme, enfin, c'était pas non plus 50 km par semaine, mais c'était pas non plus, c'était entre 80 et peut-être 100 km par semaine et encore.
D'accord.
Et après, de là, j'ai participé au championnat de France, en fait, en 2008. Et, enfin, au grand étonnement de tout le monde, j'ai fait 3e. Sachant que j'étais quand même partie, je crois, parmi les coureurs les plus lents, puisque je suis partie aux alentours des 10 à l'heure. 216, je sais.
Et tu as augmenté petit à petit ton allure.
Moi, j'ai pas non, en fait, j'ai très peu perdu entre le départ de ma course et l'arrivée de la course, contrairement aux autres.
T'es
En
quasiment pas arrêté
fait,
alors.
j'ai eu une très faible déperdition. Voilà.
D'accord.
Et en fait, cette 3e place m'a donné la chance de participer, d'être sélectionnée en équipe de France pour les championnats du monde. Je dis bien la chance parce qu'au jour d'aujourd'hui, les niveaux sont tels que c'est pas forcément une 3e place en France qui vous donne cette porte d'entrée dans un monde exceptionnel quand même. Dans le sens où jamais, quand je me suis mis à la course à pied, je pensais intégrer l'équipe de France.
Oui,
Donc,
j'imagine.
On s'est rendu à Séoul 6 mois après. Et là, j'ai fait vice-championne du monde à 200 mètres de la première, qui était une Française, Anne-Marie Vernet, en partant très très doucement. Encore une fois, je crois que le coach en riant dit toujours je suis partie dans les avant-dernières parmi les filles. Voilà. Et je suis arrivée encore une fois en relativement bonne forme. À la rigueur, j'allais dire c'est mon plus beau souvenir de 24 heures. C'est où, même si j'étais éloignée de ma famille, mais je l'ai vécu physiquement très bien. Moralement, très bien. Il y avait une équipe assez soudée 24 heures. Et j'avais vraiment lié des connaissances importantes. Et de là, bah, ça m'a permis d'aller au championnat du monde de 2009, où j'ai fait donc championne du monde à Bergame, où là, il y a eu la chance que mon mari soit en open. Et puis, j'ai fait troisième au scratch, en fait, aussi à ce championnat du monde, ce qui était assez exceptionnel. Et je bats le record de France. Et puis l'année d'après, donc à Brive, où ça a été quand même beaucoup plus difficile, je fais de nouveau championne du monde. Les températures n'étaient pas les mêmes, le contexte n'était pas le même, le parcours n'était pas le même. Donc tout ça fait aussi la difficulté du 24 heures, c'est que chaque 24 heures est différent. Il m'a été quand même plus difficile les championnats du monde de 2010. Et malheureusement, en 2011, il n'y en a pas eu, et donc je recommencerai en 2012. Voilà.
D'accord. Et pour me
Et puis
donner...
j'avais eu la chance d'être invitée à Taipei aussi pour faire le 24 heures sur piste. Donc quand vous parliez de mes résultats étonnants, moi je les juge pas aussi étonnants que cela, dans le sens où quand vous voyez Mami Kudo ou certaines, même au jour d'aujourd'hui, je sais pas ce que je serais capable de faire sur un 24 heures. En fait, c'est toujours un inconnu. Et après, je pense que chaque distance est exceptionnelle. Et puis après, j'ai la chance et parfois enfin, des difficultés de vivre avec un mari qui est encore meilleur que moi. Donc ça peut me pousser aussi à continuer, mais aussi c'est un Everest que je n'atteindrai jamais. Donc, mais on le vit pas de la même manière, de toute manière.
J'imagine. Et du coup, pour nous donner un petit peu un ordre d'idée, c'était en quelle année ton premier 100 km et la première fois que tu as couru pour voir tout ce que tu
En
as accompli?
96,
D'accord.
1996.
Donc tu es passé en 13 ans de complet amateur à championne du monde.
Voilà, exactement. Oui. Même si je reste complètement amateur.
Oui, d'accord.
Dans ma tête et dans mon cœur et dans ma manière de me voir. Je suis amateur dans le sens déjà où j'ai la chance et la malchance de bien garder les pieds sur terre parce que je travaille et que la priorité, ça va être la maison, les enfants et le travail. Je n'ai aucune aide de la part de mon employeur. Je parle pas financièrement, je parle même en organisation. Puisqu'à l'heure actuelle, on nous refuse même nos absences sans solde. Voilà. Donc et puis parce que j'aime côtoyer tout le monde et que pour moi voilà il y a pas la valeur n'est pas donnée au nombre de kilomètres. Il y a des gens que j'apprécie énormément qui vont peut-être faire 150 km et il y a des gens que je n'apprécie pas qui vont peut-être faire plus de 200 km. Donc pour moi ça n'a pas de rapport. Je ne suis pas fan d'un élite en fait. J'aime courir, j'aime les gens que je rencontre, j'aime le partage. Et le partage, bah oui, c'est vrai que la souffrance, bah en fait, ça rapproche, hein. Et bah le 24 heures, c'est quand même dur de pas souffrir. Après, justement, mon gros défaut, c'est parfois de pas assez rentrer dans la compétition. Un jour, quelqu'un nous avait dit à 24 heures, c'est pas vous qui gagnez, ce sont les autres qui perdent.
Oui, c'est
Donc
à
ça,
mon avis, oui, je pense que c'est pas faux.
c'est pas faux, c'est pas entièrement vrai, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément cette capacité à la fin de remettre le couvert, d'accélérer, de me battre. Ça, je manque encore de ce côté agressif, j'allais dire. Après, certains l'ont. Mais mon contre hein, aussi. Hein, mais pour atteindre les meilleurs résultats.
D'accord.
Je pense que c'est assez féminin aussi quand même de se garder une petite part comment dire? On n'est pas toujours à 100%, je pense, les femmes.
En fonction des personnalités, des caractères de
Ouais.
chacun, si on arrive réellement à se mettre dans le rouge ou non, aller au bout de soi-même, quelle que soit la compétition. Et également, tu cours des distances impressionnantes. T'as un travail, beaucoup de personnes souvent se disent j'ai pas le temps. Comment toi tu fais pour trouver le temps pour courir malgré tes activités annexes, ton travail? Quel message tu souhaiterais dire à toutes les personnes qui entre guillemets se cherchent des excuses pour pas courir en se disant j'ai pas le temps? Comment tu fais pour t'organiser et toujours trouver le temps pour courir?
C'est un choix avant tout. C'est un choix dans le sens que forcément ce sera au détriment et choisir ça veut dire qu'il y a des choses que je ne fais pas. Parfois c'est prendre soin de moi que je ne fais pas, ne serait-ce que d'aller chez le kiné ou de s'asseoir sur un canapé. Pour moi donc aller courir ce sera mon loisir, ce sera mon moment de détente et je pense qu'on se l'accorde tous mine de rien. Pour certains, ça va être la télévision le soir. Pour d'autres, ça va être le coiffeur. Moi, je me dis que si j'ai couru 2 heures, je me suis offert 2 heures de temps. Voilà. Donc, déjà, c'est une chose. Après, pour essayer que ça ne prenne pas trop sur la vie de famille, j'ai la chance d'arriver à me lever de bonne heure sans trop de souffrance. Donc, j'y vais le matin quand je dois doubler. Je me lève à 5h30 ou à 6h. Et puis après, entre midi et 2, je case aussi la course à pied, mais c'est au détriment de me dire, je vais prendre un repas tranquille. Et voyez, c'était dimanche, midi, j'étais à table avec tout le monde et je dis, vous savez pas le bien-être que ça fait d'être assis, de manger un vrai repas tranquillement sans regarder sa montre, parce que vous avez que 10 minutes. Voilà. Mais c'est un choix, c'est forcément au détriment de quelque chose. On essaye que ce soit pas forcément au détriment des autres. Ça l'est quand même. Un peu, faut pas se leurrer non plus, mais on essaie que ça le soit pas trop. Et quand je dis au détriment des autres, ça peut être aussi, par exemple, passer voir des amis, même 10 minutes, un quart d'heure, hein. Voilà. Donc ceux qui se disent je n'ai pas le temps, je pense que c'est parce qu'ils ont choisi de faire autre chose, mais il faut pas les critiquer pour autant. J'allais dire à eux, je les admire de faire autre chose aussi.
D'accord.
Et pour ça qu'à un moment donné, on arrêtera le au niveau, arrêter de courir, non, parce que j'aime ça. Ça m'équilibre, c'est du bonheur. Mais après, arrêter le haut niveau dans le sens de l'astreinte d'un programme pour arriver à un résultat optimum, ça oui.
D'accord. Et donc, du coup, tu effectues une grosse gestion de priorité dans tout ce que tu fais. Bon, toi, tu as un cas extrême parce que tu t'entraînes à environ combien de kilomètres par semaine? 120, 130
Voilà, à peu près 120, 130. Maintenant, un cas extrême, non. Vous savez, la majorité des personnes qui courent sur longue distance ont les mêmes contraintes que moi, quand même. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui fait qu'il n'y a pas forcément énormément de femmes qui restent trop longtemps ou elles y viennent plus tard que moi sur la longue distance. Parce que la majorité, elles doivent travailler quand même ou elles n'ont pas de sponsor. Et certains au niveau kilométrage, même si j'ai augmenté mon kilomètre par rapport à il y a 4 ans, ça reste petit par rapport à d'autres. Je veux dire, vous êtes impressionnés quand vous lisez les comptes rendus de personnes qui arrivent à haut niveau, hein. Et même mon corps ne l'encaisserait pas de toute manière.
D'accord. Et c'est combien à peu près le kilométrage des athlètes qui s'entraînent énormément, énormément? 150 km par semaine?
Non, c'est 200, 250, hein.
200, 250? Et comment physiquement ils arrivent à tenir cette cadence?
Je sais pas. On en discute parfois avec mon mari, je sais pas. Peut-être qu'ils ont la chance, certains, d'avoir un petit peu plus de temps pour récupérer, voilà. Donc ça veut dire s'étirer, ça veut dire aller chez le kiné, ça veut dire faire la sieste. Je sais pas. Hein, après on n'a pas tous les mêmes capacités physiologiques non plus. Et puis deuxième chose, il faut de toute manière se méfier énormément du surentraînement. Trop de course à pied tue la course à pied aussi. Et on tombe vite après dans des blessures de type fracture de fatigue ou autre. Hein. Faut pas se voiler la face aussi.
Oui, ben,
donc le plus n'est pas toujours synonyme de réussite.
Il faut mieux travailler de manière qualitative que quantitative.
Ah, malheureusement, il faut les deux, j'allais dire, dans cette longue distance. Il faut les deux. Et quand vous dites qu'on doit prioriser au niveau de la vie personnelle, on doit aussi prioriser, nous, au niveau de l'entraînement. C'est-à-dire que si vous devez faire que 5 entraînements dans la semaine, il y aura forcément un entraînement long, il y aura forcément de la qualité. Il y a certains entraînements que vous n'allez pas faire parce que vous pouvez pas tout faire. Moi, par exemple, je ne peux pas faire d'entraînement sur piste. Mes horaires ne vont pas avec la piste, donc voilà. Donc je priorise d'autres choses.
D'accord. Et du coup, comment tu fais mentalement et psychologiquement pour enlever toutes tes barrières mentales et arriver à courir de telles distances? Parce que vu de l'extérieur, pour une personne qui court, soit qui souhaite apprendre à courir ou soit qui court sur des courtes distances, ça peut l'effrayer un petit peu de courir des 24 heures, des 100 km, etc. Comment tu fais mentalement et psychologiquement pour t'enlever de toute cette barrière mentale?
C'est pas une barrière, je crois qu'on se lance, on la vit aussi cette barrière. Ça arrive, vous venez de faire un entraînement de 3 heures, vous en avez ras-le-bol et vous dites comment je vais faire pour tenir 24 heures. Et puis ça se fait. En fait, je crois que c'est de prendre l'inscription et de se lancer. Et puis on voit bien ce que ça donne ou non. Et deuxième chose, je pense que le fait de le vivre à deux facilite aussi ça. C'est un moteur, mine de rien. Ça peut être un frein, mais ça peut être un moteur aussi. On dit, bah, s'il y va, moi, je vais peut-être y aller quand même. Voilà. Après, la barrière, faut pas en mettre. Je crois que c'est de se dire, je me lance, et puis, au besoin, bah, j'arrête quand je veux, et puis, j'essaye. J'essaye.
Exactement, il faut pas avoir peur de tenter
Voilà.
votre premier 10 km, premier semi-marathon, marathon, premier 100 km, etc. Comme dans toute chose, il faut bien une première fois pour un petit peu
Voilà.
voir ce que c'est.
Au pire, je marche, et puis au pire, je découvre l'ambiance, et puis au pire, si j'abandonne, et ben, je recommencerai, parce que parfois, abandonner, ça donne envie de recommencer aussi. Après, je pense que ce qui est important, c'est de faire attention à sa santé, et à son bien-être, c'est-à-dire que trop de sport devient négatif pour l'organisme et l'avenir. Donc, je crois que c'est plus aux gens de s'écouter un minimum par rapport à leur état physique, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire trop sédentarité ou trop de sport. Et puis certains ont des capacités pour faire du long, d'autres n'en ont pas. Et je pense qu'il faut arriver à trouver là où on se régale, pas forcément là où on est le meilleur, mais là où on se fait plaisir. Moi,
D'accord.
j'aimerais bien essayer le marathon des sables et je pense que je serais pas bonne parce que j'ai pas les capacités de porter des sacs, etc. Mais on peut y aller aussi en se disant c'est une nouvelle expérience et puis bah au pire des cas j'arrête. Et à 12 heures ou à 24 heures c'est encore plus facile, c'est sur un circuit. Donc vous dites bah j'arrête, je vais me reposer et puis je repartirai. Donc je crois qu'il faut pas se mettre de barrière. La barrière c'est de dire est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie. Et puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de m'accompagner ou de me soutenir ou et puis comment il est ce milieu, comment sont les coureurs. On n'est pas sur les starting blocks sur la au départ, au moins on sait comment. On a du temps devant nous.
Ouais, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir? Qu'est-ce que tu ressens exactement, par, le simple fait de courir?
C'est difficile à décrire. Alors j'allais dire bêtement, ça libère des tensions. Ça, c'est déjà une chose. Après, ça permet de découvrir des endroits aussi. Ça permet de faire un sport facilement, sans être soumis à des contraintes, enfin trop de contraintes horaires, hein, ni en temps ni en lieu. Vous pouvez toujours avoir une paire de baskets et même une demi-heure en course à pied, ça, c'est intéressant. Vous allez faire un petit tour, vous allez voir la nature. Voilà, il y a. Après, c'est aussi l'idée de partage avec tout le monde, avec des filles, des hommes, des gens de 20 ans, des gens de 70 ans, avec votre mari quand ils sont à vélo. C'est une activité qui est tellement facile à pratiquer que déjà je l'aime par ce côté-là. Et puis après, parce que bah, j'allais dire physiologiquement, tout le monde sait, il y a certainement une libération d'endorphines ou autre. C'est le bien-être qu'elle génère au niveau intellectuel et physique.
D'accord. Bah, je rebondis sur tes propos. Exactement, lorsque l'on va courir, que ce soit 6 heures du matin, 17 heures, midi, etc., on n'est vraiment pas dépendant de personne, comme si on pratiquait un sport collectif ou si on est tout seul, ça va être difficile de le pratiquer. La course à pied, vraiment, à partir du moment où on a un peu de temps libre, 1 heure devant soi, ou même que 30 minutes. On peut aller courir et globalement, à moins que vous habitiez vraiment dans le centre incroyable d'une grosse ville, Dès que vous sortez de chez vous, vous pouvez courir tranquillement et sereinement. C'est vraiment ça qui est incroyable avec la course à pied. Le seul investissement, ce sont par rapport aux chaussures pour ne pas vous blesser et vous sentir bien dans vos baskets. Donc
Oui, tout
honnêtement,
à fait.
par rapport à ça, même si vous avez des grosses journées et pas énormément de temps libre devant vous, si vous arrivez à trouver au moins 1 heure tous les 3 jours, vous pouvez prendre du plaisir en courant tout en n'ayant pas énormément de temps libre pour pratiquer cette discipline, même si vous voulez courir. Et aussi, je voulais que tu reviennes un petit peu sur quel est l'équipement que tu as quand tu fais des entraînements de 3 heures? Tu cours avec une espèce de petite gourde ou avec un tuyau pour te ravitailler? Quel est ton équipement de course à pied quand tu pars pour faire des footings de 3 heures, par exemple?
Alors, au jour d'aujourd'hui, en fait, bon, soit je peux avoir une petite gourde à la main, en effet, il y a des systèmes où vous glissez la main aussi, vous tenez la gourde. Mais en fait, quand on travaille sur du longue distance, donc spécifique 24 heures, on a des circuits où on repasse régulièrement devant la maison et le matériel, c'est une bouteille d'eau, je ne donnerai pas de marque, de 500 millilitres dans laquelle on a mis le produit et en fait voilà, à chaque fois qu'on passe on prend dans la bouteille. Voilà, si on veut faire du spécifique 24 heures. Après quand on est du spé 100 km ou à la rigueur on va faire des circuits plus longs, voilà, en général on prend une gourde à la main et puis on envisage quand même de repasser par la maison. Je dis on parce que mon mari a la même pratique. Sachant qu'en plus, quand on part courir, on laisse les enfants à la maison, donc le fait de passer régulièrement, ça permet de savoir si tout se passe bien et qu'eux savent qu'ils peuvent venir nous voir ou prendre le vélo sur un tour, etc. Mais voilà, donc c'est surtout des petites bouteilles et puis sinon éventuellement une gourde avec un espèce de gantelet là, où la main peut se glisser et puis les gourdes de notre athlétique. Parce que
D'accord.
c'est notre athlétique qui a eu la gentillesse de nous sponsoriser, donc il nous a fourni aussi des gourdes. Et éventuellement des gourdes avec des petites pipettes aussi.
D'accord. Et tu prends des compléments alimentaires, des choses comme ça, pour n'avoir aucune carence ou tu
On
prends
essaye
rien
de
du tout?
prendre un peu de compléments alimentaires. C'est Nutra Athlétique aussi, en fait, qui s'occupe de ça, puisqu'ils sont en lien avec les laboratoires, les scuyers. Donc ils nous conseillent aussi là-dessus.
D'accord.
Pour éviter les carences dans le sens où l'alimentation ne peut pas toujours compenser les pertes liées à la course à pied, où il faudrait manger des quantités incroyables et surtout que on n'a pas forcément le temps de manger un repas entre midi et deux du fait de l'entraînement.
D'accord,
Et moi, je vais
j'imagine.
bien faire, voilà.
Et pour finir sur une dernière question. Quel message souhaiterais-tu donner à tous les débutants qui souhaiteraient dès demain commencer la course à pied?
Il faut d'abord, il faut partir avec une bonne paire de chaussures. Une bonne paire, ça veut dire pas trop chère forcément, mais bien adaptée, assez légère. Il faut partir en se faisant plaisir, donc pas trop vite. Je vois beaucoup de débutants en fait qui partent souvent très vite et qui arrêtent parce qu'ils trouvent que la course à pied, c'est de la souffrance. Souvent, ils sont en hyperventilation, ils sont et après, le vivre, arriver à trouver le plaisir réel dans la pratique de la course et pas seulement la lier à, ni à la performance, ni à la perte de poids, ni à je ne sais trop quelle idée. Je crois que c'est déjà trouver le plaisir de pratiquer le footing. Voilà. Et surtout, donc, ne pas aller trop vite. Et vite se mettre dans des petites courses régionales parce que je crois que c'est là où on se rend compte un peu, qu'on peut se faire plaisir, on s'est entraîné, ça sert à quelque chose, c'est autre chose encore. C'est notre ambiance. Voilà. Donc faut pas hésiter à, quel que soit le niveau, à participer à des petites courses sans vouloir être devant. C'est pas dans l'idée de compétition du tout, c'est dans le lien qui peut exister entre tous les coureurs et s'apercevoir que la course à pied n'est pas forcément un sport individualiste.
Ouais, exactement, parce que lorsque vous allez courir quelquefois en compétition, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a une immense communauté de personnes qui pratique la course à pied. Également, c'est incroyable, mais tout le monde ressent exactement les mêmes choses. Donc ça tisse vraiment des liens sociaux et c'est sympa de découvrir d'autres personnes comme ça. En fonction de votre résidence, votre localisation, vous allez pouvoir, entre guillemets, vous faire des amis et ensuite aller courir avec eux. Et c'est quand même beaucoup plus plaisant de courir en groupe que tout seul dans son coin.
Oui, bah les deux sont plaisants en fait. Hein. Quand vous avez, enfin moi j'aime aussi courir seul, donc les deux sont plaisants. Je crois que c'est faut que en groupe c'est difficile parce qu'il faut se caler à des niveaux, à des parcours que les autres veulent, etc. Donc c'est bien, je crois, parfois de se retrouver un peu seul et puis de regarder le paysage, les oiseaux et d'aller à son rythme. Et puis c'est bien d'être en groupe pour partager. Je crois que les deux, il n'y a pas de à hiérarchiser en fait les choses. Voilà, il faut. Faut que chacun y trouve son compte.
Ouais, exactement. Mixer un petit peu entre le partage avec les autres pour progresser, échanger, etc. Et également être seul pour se retrouver soi-même et donc être dans le bien-être et éventuellement se développer personnellement par rapport à la course à pied.
Ouais, tout à
D'accord.
fait. Voilà, bah merci.
Je vous invite à tout le monde à aller voir votre blog anne-cécile-emmanuelle-fontaine.blogspot.com où tu évoques les différents résultats de tes courses, tes récits et également les différents entraînements que tu fais au quotidien chaque semaine dans la course à pied.
Ouais, bah ça, pour ça, il faut surtout remercier mon mari qui passe beaucoup de temps à le gérer au mieux. Voilà. En tout cas, bah, merci à vous de vous être intéressé.
J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Également, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview. Cela me fera très plaisir de lire votre opinion. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos de course à pied ou de nouvelles interviews d'experts pour toujours apprendre des meilleurs et réaliser tous nos objectifs dans la course à pied. C'était Maxence Rigottier de blogcoursapied.com. À bientôt!